Bonjour à tous. Je vais vous parler donc aujourd'hui de la Maurienne au XIVe siècle. En fait, c'est un sujet qui fait partie de ma thèse, une partie simplement, puisque le sujet de ma thèse est assez vaste, puisque j'ai essayé de... Voilà, le titre, ça concerne l'organisation spatiale de la vallée de la Maurienne depuis l'origine, du moins l'origine historique, c'est-à-dire le VIe siècle. Vous savez qu'on connaît l'histoire de la Maurienne à partir de la fin du VIe siècle, avec la création de l'évêché de Maurienne, et le début de la légende de Saint-Étienne, on peut m'empêcher de rater. Et donc, on va parler aujourd'hui uniquement du XIVe siècle, et seulement certains aspects. Alors, quand on parle d'organisation spatiale, il y a plusieurs façons de voir les choses. Il y a d'abord l'espace physique, que vous connaissez comme moi, qui, foncièrement, n'a pas dû vraiment changer depuis le XIVe siècle. Les montagnes, les vallées, etc. Le cours de l'arc a peut-être un peu changé. Également l'espace religieux, avec cet évêché quand même qui a une certaine notoriété depuis le VIe siècle. Également l'espace juridique, comment s'exerce la justice en Maurienne à cette époque. Donc ces aspects, on ne va pas les aborder aujourd'hui. Je vais vous parler essentiellement de l'espace politique, c'est-à-dire comment est administrée la Maurienne à cette époque, et l'espace économique. Alors j'ai choisi ces deux points parce qu'ils sont intimement liés. Vous savez que l'économie et la politique sont souvent liés. Je ne ferai pas référence à des événements très récents où les zones économiques sont là à la convoitise des dirigeants. Voilà. Donc je vais vous parler en introduction, si vous voulez, des sources dont on dispose, dont j'ai disposé, ainsi que la façon de les exploiter. Alors les sources, il y a d'abord des sources diocésaines, bien sûr, dont certaines, la plupart même, sont conservées aux archives départementales à Chambéry. Nous avons des sources paroissiales. Et puis les plus importantes sont les sources comtales, celles qui sont donc à l'origine donc détenues à Chambéry, au château de Chambéry, et qui sont aujourd'hui elles aussi aux archives départementales de Savoie. Ces sources comptables, ce sont essentiellement trois choses, en dehors des chartes, hein, ce sont des subsides, les comptes de châtellenie et les comptes de judicature. Alors les subsides, c'est un impôt que lève le comte de Savoie à l'occasion, lorsqu'il fait par exemple une campagne militaire, il a besoin d'argent, donc il va lever un impôt exceptionnel. Mais comme vous le savez, les impôts exceptionnels ont tendance avec le temps à devenir permanents. Les comptes de châtellenie, c'est le plus gros corpus, c'est un très gros volume de données qui sont... On a la chance en Savoie d'avoir des comptes de châtellenie presque complets sur toute la période. Vous allez voir, j'ai exploré une période de 150 années, un siècle et demi. Et puis les comptes de judicature sont moins intéressants peut-être pour l'historien, ce sont les comptes du juge de Maurienne et de Tarentaise. Alors les comptes de châtellenie, vous savez ce que c'est, hein, ce sont des rouleaux de parchemin comme ceci, ce sont des peaux de mouton qui sont cousues les unes après les autres au fur et à mesure des besoins. Et le premier compte de châtellenie qui est conservé aujourd'hui, c'est un compte de la fin du XIIIe siècle. Voilà son apparence, hein, il est un peu détérioré, mais il est quand même exploitable. Et c'est mon collègue Christian Guiré qui s'est chargé de cette partie du XIIIe siècle. Il a fait c'est un peu le spécialiste des comptes de châtellenie de Savoie. Il est aujourd'hui en retraite, c'est un professeur de l'Université de Savoie. Et donc j'ai continué mon exploration, jusque, comme je vous l'ai dit, sur une période de 150 années, jusqu'en 1417. Alors pourquoi 1417? C'est tout simplement qu'en 1416, le comté de Savoie devient un duché. Et j'ai voulu explorer donc cette période jusqu'à l'accession au duché. Vous savez, c'est à l'époque, c'est Amédée VIII, le petit-fils du comte Vert, pour ceux qui connaissent le comte Vert. Voilà. Alors, la méthode que j'ai utilisée au départ, c'est une méthode traditionnelle, c'est de transcrire les rouleaux de châtellenie et écrire ligne par ligne, en latin, bien sûr, et puis essayer de les comprendre. Et devant l'importance du corpus, j'ai adopté une méthode plus moderne, plus informatique. J'ai donc... alors, voici le dernier compte... Vous voyez, il est nettement plus joli que le précédent, il est bien écrit, il est bien formaté, il est plus facile également à transférer. Alors, l'ensemble du corpus est important, ça représente 73 rouleaux, ça fait environ 2000 peaux, ça sera plus parlant pour vous si je vous dis que ça fait 2000 moutons, quoi. Plus de 100 000 lignes de latin. Et donc, la partie, donc, comme je vous l'ai dit, de... Les premières 50 années ont été transcrites par Christian Guiré il y a déjà quelques années, et je travaille avec lui en ce moment à l'édition de cette partie. Et moi, j'ai donc continué sur les 100 années qui suivent. Alors, comment je procède? Tout simplement, quand on a un compte comme ceci, vous voyez, avec des lignes, bon, on essaye de les comprendre, il y a des abréviations, on les transcrit. Alors ma méthode, c'était de les transcrire sur un tableur, et puis ensuite, vous voyez, donc je transcris les lignes. Il s'agit ici de poules, vous voyez, les galines. Parce qu'il y en a un mot sur les poules, on paye des poules, c'est une unité de compte comme les autres. On a même des poules, ici 5 poules et demi, vous voyez, c'est... on coupe les poules en deux. Et ensuite, donc, j'intègre ce que j'ai saisi, là, j'ai pris un exemple sur 3 lignes, je l'intègre dans une base de données, et cette base de données, je vais après aller la questionner avec un moteur de recherche, un peu comme vous verriez sur Google. Et donc, j'ai créé ce moteur de recherche que j'ai appelé Indago, ça veut dire je trouve en latin. Et il a l'intérêt de pouvoir faire des recherches avec beaucoup de critères différents. Par exemple, par les rubriques, par le nom du châtelain, et puis cette dernière ligne ici, là, qui est très intéressante, c'est une recherche textuelle. Avec une partie d'un mot, par exemple, on peut retrouver, on va voir quelques exemples ensuite. Voilà. Alors, par exemple, si je veux retrouver la rubrique précédente que j'ai saisie là-haut, là, il suffit que je choisisse ici le bon numéro de compte, et puis la bonne rubrique, par exemple ici les poules, et puis je lance la recherche et j'obtiens bien sûr la reproduction exacte de ce que j'ai transcrit ici, correspondant au document. Donc c'est un travail considérable, je dirais presque merci à la période de confinement, où je ne me suis pas ennuyé. Et on va prendre quelques exemples, hein, des exemples un peu amusants. Par exemple, on peut chercher des personnages célèbres qui ont traversé la Maurienne. Car forcément, quand ils traversent la Maurienne, il y a des dépenses qui sont engagées, on va les retrouver en comptabilité. Alors j'ai pris comme exemple cette gravure qui se trouve au musée de Berlin, c'est Saint-Martin-Urbain, il est le roi à gravure consigne. Alors ce roi, c'est le roi des Romains, c'est celui-ci là qui est ici, il s'appelle Henri VII de Luxembourg, et il a traversé la Maurienne en 1310. Alors il est accompagné dans la montée ici du comte de Savoie, qui s'appelle Amédée V à l'époque. On le reconnaît facilement avec sa bannière ici de gueule à croix d'argent. Gueule, ça veut dire rouge. Donc il gravit le Mont-Cenis en 1310 pour aller à Rome, se faire couronner empereur. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est en délicatesse avec le pape. Et donc le pape refuse de le couronner, donc il va attendre 1312, et ce sont 3 cardinaux qui, au palais du Latran, vont le couronner. Voilà, donc... je prends cet exemple, on va essayer de le retrouver dans les traces de la comptabilité. Alors, il suffit que je tape ici, vous voyez le mot empereur. Alors, je le tape en latin, évidemment. Donc, imperator, je ne tape qu'une partie du mot. Et je lance la recherche, et j'obtiens, vous voyez ici, 13 items, 13 fois l'empereur qui est signalé. Alors, ce n'est pas forcément le même empereur, puisqu'on est sur une période de 150 ans. Et pour l'empereur qui nous concerne, on va chercher ici l'année 1310. 1311. Et voyez, alors je vous traduis le texte qui est donné. C'est une dépense, hein, ici, une dépense qui est faite par le châtelain de Maurienne. Ça concerne une paire de bœufs très gras et 50 moutons qui ont été présentés au seigneur empereur à la Chambre, à Saint-Michel, à Termignon, à Lens-le-Beau, dans ces lieux où il a passé la nuit quand il faisait le voyage en Lombardie, etc., etc., avec la dépense à la fin. Vous voyez, donc on retrouve comme ça des événements historiques. Une confirmation de certains événements historiques, et ça peut être très utile lorsqu'on a très peu de sources. Ça fait une confirmation. Alors je vais prendre un exemple cette fois un peu plus amusant, c'est sur les patronymes. Je me suis aperçu que, comme je connais bien la Maurienne, comme la plupart d'entre vous, on connaît les patronymes qui sont aujourd'hui, enfin au XXe siècle ou au XXIe siècle, en Maurienne, je me suis aperçu qu'au XIVe siècle, ils sont déjà là. On les retrouve très facilement. Et je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée, grâce à Marilyn Falquet, d'ailleurs, qui est ici. On se trouvait tous les deux dans les locaux de la Société d'Histoire, et elle me présente un recueil du XVIIe siècle dont la couverture se décollait. Alors on a délicatement déplié la couverture, on l'a photographié, je l'ai scanné, et puis voilà ce manuscrit. On distingue d'ailleurs les marques de la livre ici. Et c'est un manuscrit de 1331. Il s'agit de 3 actes de vente, qui sont faits par le secrétaire de l'évêque de Maurienne. Alors en 1331, si vous vous souvenez, la révolte des arts, c'est 1326, c'est toujours cet évêque qui a eu des problèmes avec ses administrés, l'évêque Aymon, et c'est lui, donc son secrétaire en tout cas, qui rédige ces 3 actes de vente. Alors j'ai commencé à transcrire, et dès la 4e ligne, je trouve, ça va intéresser Pierre Denis, je pense, il va tout de suite réagir, mon fichier, paroisse de Saint-Pancras. Alors, il s'agit d'une terre qui est vendue et qui se situe à Montfuchet, paroisse de Saint-Pancras. Donc, ça a attiré mon regard parce que ma famille, comme celle de Pierre Denis, est originaire de Saint-Pancras. Donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Alors, j'ai continué et un peu plus loin, je vois que cette terre, elle est située à côté de la voie publique et à côté du Morieux. Elle est limitée de part et d'autre par ces deux limites. Et puis, je vois qu'elle est située donc à côté d'une terre qui appartient à un certain. Alors, vous voyez, on lit très bien, une terre, terrain. Là, ça veut dire Dicti, donc Didi, Vital, qui est un prénom hein, qui était encore utilisé au XXe siècle, Vital, Verrier. Donc je suis à peu près certain d'avoir trouvé mes ancêtres. Voilà. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais je suis allé un petit peu plus loin. J'ai regardé sur la Mapsarde. Vous savez, la Mapsarde, c'est en quelque sorte le premier cadastre du XVIIIe siècle. Début XVIIIe siècle, où. Les terres sont relativement bien repérées, et j'ai retrouvé cette terre. Après, je suis allé encore un peu plus loin, j'ai regardé le cadastre du XXe siècle, avant 1957, avant le remembrement, et je retrouve toujours cette terre. Et puis, dernière étape, c'est que j'ai un vieil oncle de 91 ans qui me dit, mais le bébé, il avait une terre à Montfuchet. Et en regardant sur les plans, j'ai vaguement. Bon, j'en suis absolument pas sûr à 100%, mais il y a une probabilité certaine que cette terre qui était en 1331, qui appartenait à ce certain Vital Verrier, appartenait encore à mon grand-père au début du XXe siècle, enfin au milieu du XXe siècle. Voilà, c'est une anecdote assez amusante. Et... voilà. Alors maintenant, ça va être un peu à vous de travailler, parce que je vais vous faire travailler. Vous allez essayer de les reconnaître. Alors, les Moriennais sont avantagés, hein, parce que c'est des patronymes Moriennais. Le premier, vous voyez, c'est le prénom et le nom. Le prénom, c'est Petro, donc c'est Petrus, c'est Pierre. Le nom, la troisième lettre, je vous précise, c'est un S. Je vous aide pour le premier. C'est Petro Pasquerii. Et c'est bien sûr Pierre Pasquier. Alors, à vous maintenant. Alors, celui-ci, on a en plus la paroisse d'où il est originaire. Je vous écoute. Alors, il s'appelle Jean, hein, c'est Johannes. Hein. Il s'appelle Jean. Bravo, c'est Jean Bertrand. Et il habite où? Il habite à Beaune. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Alors celui-ci, il s'appelle toujours Jean, hein, c'est Ioannis, voilà. Facile, hein, Beauchet. Il habite où? Montbacal. Ah voilà, vous êtes des paléographes maintenant. Alors celui-ci, pareil, les anthropos verts qu'on trouvait facilement. Il s'appelle Pierre, bien sûr. Alors, effectivement, ça ressemble à N, mais en fait, c'est un U. C'est très difficile de distinguer les U et les N. Pierre Bottaz, bien sûr. Alors ça veut dire Dito, c'est-à-dire dit, parce qu'il a un surnom, et il s'appelle Credo, son surnom. Voilà. Alors, je fais une petite parenthèse à propos de ce patronyme. Bottaz, les scribes qui rédigent les actes du XIVe siècle, les notaires, les secrétaires, écrivent en latin. Donc quand un paysan se présente devant eux, le paysan ne parle pas de latin, il parle dans la langue vernaculaire, c'est-à-dire le patois. Il est certain que ce monsieur Pierre Bouta, il s'appelait pas Boutaz, il s'appelait Bouta. Et moi j'ai le souvenir, et j'ai essayé mon oncle et ma tante, enfin, qui vont le confirmer, c'est que ma grand-mère, quand elle parlait de la famille Boutaz, elle disait pas Boutaz, elle disait les Boutes.
Les Boutes.
Voilà, voilà. Donc, ce qui me fait dire, c'est un seul exemple, mais j'ai beaucoup d'exemples de ce type, ce qui me fait dire que le patois a très très peu évolué depuis le XIVe siècle, contrairement à la langue française qui a subi beaucoup d'apports extérieurs. Je pense que la configuration des régions de montagne, en particulier, limite les apports extérieurs, et que le patois, j'ai retrouvé des mots, Pierre Denis m'en parlait tout à l'heure, certains mots qu'on retrouve dans le langage médiéval et qu'on retrouve au XXe siècle. Allez, on continue un petit peu. Non, c'est toujours Jean. Hein. C'est, vous voyez, c'est un J, un O, un H, un E, et puis il y a une petite abréviation qui veut dire Ioanné. Jean. Vous êtes pas loin ? Varnier. Il s'appelle Varnery, exactement. Et c'est Jean Varnier, voilà. Alors celui-ci, je crois qu'il est, je suis même certain, il est Saint-Julien. Et le patronyme existait, en tout cas au XXe siècle, à Saint-Julien. Je pense qu'il existe encore. Pour vous aider, la quatrième lettre, c'est un I. Et le I et le J, c'est pareil, hein, en latin. Borjon, bravo madame. Pierre Borjon. Celui-ci, il a un prénom qui est plus tellement employé, c'est Michelet. Hein. Michelet, son prénom. C'est difficile à lire. Hein. C'est un B, un R, un U, un N, un E, un T, un I. Brunetti. C'est Michelet Brunet. Ben, je vous en mets encore un ou deux, et puis on s'arrêtera là. Celui-ci, toujours un Jean. C'est un F, la première lettre. Oui, Fornery. Comment vous pourriez traduire tout simplement Fournier. Fournier. Alors, celui-ci, son prénom est un peu plus compliqué, parce qu'il est abrégé, c'est la lettre B et la lettre N, qui est l'abréviation de Béné. Bien. Béné. Bénédicto. C'est-à-dire Benoît, oui, c'est ça. Et là, il y a une abréviation pour un N, c'est Columbetti. Columbetti. Benoît Colombet. Voilà. Encore un dernier. Alors celui-ci est Jarier. Oui, j'ai entendu. Vous êtes pas loin. J'ai entendu là. Picton. Voilà, Picton. C'est Jean Picton. Voilà. Vous voyez, donc alors j'ai pris que quelques exemples, mais on retrouve des Daudier, des Truchet, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. On retrouve les patronymes d'aujourd'hui. Voilà, c'était juste une guise d'introduction pour saluer un petit peu. Je vais passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc j'aborde la partie que je vous annonçais, c'est l'espace politique de la Maurienne au XIVe siècle, qui est un enchevêtrement de juridictions. C'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, il y a de nombreux seigneurs qui gouvernent, on va le dire comme ça, la Maurienne. Et le premier d'entre eux, enfin, quand je dis le premier, c'est celui dont on connaît l'origine la plus lointaine, c'est bien sûr le seigneur évêque, qui lui est présent depuis la fin du VIe siècle. Le seigneur évêque, alors je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, parce que dans ma tête, j'ai essayé de reprendre toute l'histoire de l'évêché de Maurienne, mais là, je vais simplement vous montrer cette carte. Vous avez ici, donc, en mauve, on va dire, je ne sais pas quelle couleur ça apparaît pour vous, en mauve, l'étendue au Moyen-Âge du diocèse de Maurienne. Et puis vous avez ici en jaune, ce que j'appellerais peut-être le diocèse rêvé, puisque à la fin du XIIIe siècle, en 1262, l'évêque de Maurienne se rend ici au pont de la Vologia, ici dans la vallée du Sud, et écrit, Yvan Caporizo connaît bien cet épisode, que son diocèse, il vient jusqu'ici parce que son diocèse vient jusque-là. Donc on reste encore sur une idée que le diocèse est étendu en Italie et également dans la vallée de Briançon. Dans les faits, il y a bien longtemps que toute cette partie n'est plus dans le domaine spirituel de l'évêque de Maurienne, et les limites du diocèse de Maurienne, c'était à peu près donc cette partie, vous voyez, en mauve. Alors j'ai parlé de l'espace spirituel, donc sur lequel l'évêque a une juridiction spirituelle, et il y a d'autre part son domaine temporel, c'est-à-dire le domaine duquel il tire ses revenus. Alors la tradition est admise, c'est que le roi Gontran, je vous en avais parlé dans une précédente présentation, c'est le petit-fils de Clovis, donc au moment de la création de l'évêché de Maurienne, aurait donné donc 18 paroisses, en réalité 17 et demi, 18 paroisses à l'évêque de Maurienne pour assurer son temporel. En gros, c'est donc ce qu'on appelle aujourd'hui la vallée de l'Arlon, le secteur de Modane avec cette paroisse de Saint-André qui va rester très longtemps dans le domaine épiscopal, également la paroisse d'Argentine. Voilà. Ce domaine temporel donc, est assez important et vous allez voir qu'au XIVe siècle, il va considérablement être réduit. Le deuxième seigneur très important, alors Pierre Brunion en a parlé, je ne sais pas où il est, il en a parlé, je ne vais pas revenir dessus. Donc un seigneur qui est présent depuis très longtemps et qui a réellement une importance à cette époque. Je vous présenterai simplement cette carte qui montre son domaine où il possède des fiefs. Et ce qui est représenté, les petites tours que vous voyez, ce sont ces places fortes, enfin disons ces châteaux ou ces maisons fortes. Vous voyez qu'il en a même au bord du lac d'Annecy, et il en a même ici dans la région d'Abéliane. Donc c'est un seigneur qui n'est pas seulement en Morienne, qui est également dans la vallée du Grésivaudan, et je crois même ailleurs. Je sais pas, on fait des sujets. Si on prend que la Morienne, on voit tous ces châteaux, ces maisons fortes. Il est établi en Morienne au château de Notre-Dame-du-Poëlle, qui aujourd'hui est complètement en ruine. Et il possède donc des châteaux et des maisons fortes. Il possède ici à Brieux un châtelain, un peu le symétrique du châtelain de Morienne, si vous voulez, pour administrer cette partie de la haute vallée de la Morienne. Le seigneur le plus important, c'est en tout cas celui qui est promis au plus bel avenir, c'est le comte de Savoie, qui, au XIVe siècle, va prendre de plus en plus d'importance. On va se diriger petit à petit vers ce qu'on appelle l'État moderne, avec une centralisation des pouvoirs, à Chambéry en l'occurrence. Donc je ne m'étends pas pour l'instant sur le comte de Savoie, sachez simplement que en Morienne, comme partout ailleurs dans toutes les châtellenies, il a sur place un châtelain, donc il est basé à la Chambre, donc à côté du vicomte de la Chambre. Et ce châtelain donc, est une sorte de fonctionnaire, puisqu'il est rémunéré par le comte de Savoie, donc il est chargé de collecter l'impôt, il est chargé d'entretenir le château comtal, il est chargé également de la basse justice, il a un rôle comme ça, donc de fonctionnaire du comte. Mais il y a encore d'autres juridictions, sinon ça serait trop simple. Vous avez en particulier le chapitre de Morienne, donc c'est l'ensemble des chanoines de Morienne, donc regroupés autour de l'évêque, et le chapitre de Morienne reçoit des donations à la fois de l'évêque de Morienne et puis également du comte de Savoie. Et il possède des fiefs un peu partout dans Morienne. Il ne faut pas oublier non plus les abbayes, donc il y en a essentiellement deux ici en Morienne. Il y a l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, donc à côté d'Avigliane en Italie aujourd'hui, qui possède une juridiction pleine et entière sur la haute Morienne, sur le secteur de Bessan et Bonneval. Donc là, c'est ni comte de Savoie, ni comte de la Chambre, c'est l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse. Et puis, il ne faut pas oublier la Novalaise, qui est présente depuis sa création par le patrice Abon en 731. On a dans le testament d'Abon, donc en 739, Abon donne à l'abbaye de la Novalaise des possessions qu'il a, par exemple, j'en ai plusieurs en tête, mais l'église de Saint-Bonnasse, par exemple, également l'église Saint-Pierre, qui aujourd'hui est disparue, qu'on recherche activement. Et donc, on s'aperçoit que la Novalaise possédait des terres qui, théoriquement, si on se réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la donation de Gontran, Saint-Pancras est théoriquement dans le domaine de l'évêque, mais oui, que là c'est déjà attribué à la Novalaise. Et puis, alors non pas une juridiction, mais des personnages que je voudrais quand même ne pas oublier, car en général l'histoire les oublie, tout simplement par manque de sources. Ce sont les habitants de Morienne, ce sont les paysans. Et qui sont essentiellement des agriculteurs. Alors, ce sont les communautés paysannes, qui sont généralement regroupées donc, dans une paroisse. C'est un sujet qui a été très approfondi par mon collègue Fabrice Mouton, de l'Université de Chambéry. Donc, je vous laisserai, si ça vous intéresse, vous reporter à ses travaux et à ses bouquins. En quelque sorte, c'est une sorte d'organisation paroissiale pour justement avoir la force du nombre. Je résume, alors on les trouve dans les textes, donc les comtes de Châtellenie, sous le nom d'université par exemple. L'université c'est une communauté paysanne, ou sous le nom communauté également. Je vous présente cette carte qui résume, mais je précise tout de suite que cette carte est très incomplète. Elle a été établie au départ par Gabriel Pérouse au début du XXe siècle, et qui a l'avantage de présenter un petit peu ce que je viens de vous dire, avec ici ce secteur de la Haute-Morienne, Bessan Bonneval, donc l'abbaye de Saint-Michel de la Cluse, qui a la juridiction de cet ensemble. Les secteurs qui sont en vert ici, vous avez l'Argentine, vous avez Valoir et vous avez Saint-André, ce sont les terres épiscopales. C'est vraiment le domaine plein et entier de l'évêque. On se situe ici, donc après l'année 1327, on va en reparler ensuite, après cette fameuse révolte des Arts. Justement, donc, dans cette vallée de l'Arvent, vous voyez que c'est à la fois vert et rouge, c'est-à-dire que là, le comte de Savoie et l'évêque de Morienne se partagent la juridiction. nous y reviendrons. Et puis, bien sûr, autour de la Chambre, vers Pont-à-Maffray, on a de Pont-à-Maffray, le vicomte de la Chambre, qui également, vous voyez, possède des terres en Haute-Maurienne, en tout cas vers Modane, ici, où il a des possessions. Et enfin, donc, je vais représenter quelques points ici, le chapitre de Maurienne, mais en fait, il y a des possessions un peu partout. Vous voyez, donc, c'est très compliqué, ce qui fait que un habitant de Pont-à-Maffray, par exemple, qui habite en amont, il va dépendre, par exemple, du comte de Savoie. C'est ce qu'on appelle un homme du comte. Et puis celui qui habite juste de l'autre côté du ruisseau, ça va être un homme du vicomte de la Chambre. Mais il se peut très bien que le premier qui dépend du comte de Savoie possède une terre de l'autre côté du ruisseau qui et donc paye une redevance au vicomte de la Chambre. Vous voyez la complexité des choses. Donc c'est pas forcément le même impôt, c'est pas forcément la même justice. Donc une situation très très impliquée. Je résume également ceci avec ces châteaux que tout au long de la vallée, qui vous montrent la complexité. Alors, je vais agrandir la légende. Vous avez en noir, je ne sais pas si vous voyez bien dans la salle, mais bon, voilà les châteaux et les maisons fortes du comte de Savoie. En violet, ceux de l'évêque. En bleu, ceux du vicomte de la Chambre. Et puis, en gris, ce sont les familles nobles. Alors, tous ces gens sont liés entre eux par ce qu'on appelle un hommage, ou un hommage lige, c'est-à-dire que le vicomte de la Chambre est un vassal du comte de Savoie. Et puis les familles nobles ici, qui ont des châteaux, vous en avez par exemple ici à Saint-Michel, vous avez, je vais mettre la liste ici avec les noms, vous voyez, le 13 et le 14, vous avez par exemple le 13, la famille Maréchal, qui possède la tour ronde de Chambarlet, et cette famille Maréchal dépend du comte de Savoie. Et si vous vous mettez autour de Saint-Étienne-de-Cuisne, c'est par ici, Sainte-Marie-de-Cuisne, voilà, je crois qu'on est dans les 5 et 6. Vous avez par exemple le Châtel-André qui est de la famille de Cuisne, qui appartient à la famille de Cuisne, qui est, les Cuisnes sont des vassaux du vicomte de la Chambre, qui lui-même est un vassal du comte de Savoie. Vous voyez donc l'imbrication des possessions. Alors, comme je vous l'ai annoncé, le pouvoir comptable va peu à peu s'étendre sur la Maurienne. Et je vais prendre un exemple qui est très connu, que vous connaissez déjà, c'est la révolte des arbres de 1326-1327. Pierre Denis avait déjà traité ce sujet ici même. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je vous rappelle simplement deux mots pour ceux qui l'ignoraient encore. C'est au cours de l'année 1326. C'est d'ailleurs pas le seul exemple, hein, mais c'est un exemple assez parlant. Au cours de l'année 1326, les paysans de la vallée des arbres se rebellent contre les gens de l'évêque, qui se trouvent à ce moment-là dans le passage en d'arbre, dans sa maison de villégiature, et il est obligé de quitter les arbres en urgence avec ses chanoines et de se réfugier dans un premier temps à Saint-Jean-de-Maurienne. À Saint-Jean, il y aurait eu des exactions, des incendies, l'évêque parle même de mort d'homme, et l'évêque et les chanoines sont obligés de se réfugier donc dans la collégiale de Randon, et après, à leur secours, le comte de Savoie, qui est le seul pouvoir séculaire qui peut éventuellement ramener l'ordre. Et donc tout ceci va aboutir à ce qu'on appelle le traité de Randon de l'année suivante, de février 1327. Et ce préambule, voilà, cette source, le problème de cette source, quand on est historien, c'est qu'on la prend avec des pincettes parce que c'est une source unique. Et ça, on n'aime pas avoir des sources uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune confirmation. En effet, le traité de Randon est établi entre l'évêque de Maurienne, qui s'appelle Aymon, et le comte de Savoie, qui s'appelle Édouard à cette époque. Mais c'est la version de l'évêque qui est dans le texte. Il n'y a aucune autre version contradictoire. Donc, il y a théoriquement beaucoup d'exactions, beaucoup d'incendies, beaucoup de même morts d'hommes, je vous l'ai dit. Alors, je ne vais pas revenir sur cet épisode assez connu, mais je vais quand même essayer de montrer qu'on peut apporter des éléments supplémentaires, en particulier sur l'étendue de la révolte. Voilà ce que je trouve dans un texte. On se situe dans l'année 1327, hein, c'est le compte de 1327-1328, dans la rubrique dépenses. Alors je vous mets la traduction. Il a payé, donc c'est Châtelain de Maurienne, qui a payé au seigneur Aymon Grand, Châtelain de Maurienne, la valeur du tiers des biens détruits et incendiés dans son hôtel par ceux des arbres, d'Alilieu, d'Adiejeu et de Saint-Jean. Alors ce petit texte de trois lignes apporte quand même deux éléments intéressants. Tout d'abord qu'on sait que la révolte ne s'est pas limitée aux arbres. On sait que les gens d'Albier, les deux Albier sont intervenus, ainsi que ceux de Saint-Jean. La deuxième chose que je peux dire, c'est que c'est la seule indemnisation qui a eu lieu dans toute cette période auprès d'un chanoine. Il me semble évident que s'il y avait eu énormément d'exactions, il y aurait d'autres indemnisations. Or, c'est la seule. Donc, je me pose la question sur l'étendue de la révolte. C'est peut-être pas aussi grave que ce que l'évêque avait voulu suggérer dans le traité des temps. Alors, l'évêque, je vous l'ai dit, appelle à son secours le comte de Savoie, Édouard, et demande, bien sûr, une répression. Alors, qu'en est-il de cette répression? Y a-t-il eu répression armée? Y a-t-il eu des arrestations? Enfin, des choses comme ça, on peut s'attendre à tout. Alors, je trouve quelques éléments dans les comptes de Châtenay. On se trouve ici dans une rubrique qui s'appelle les banas, c'est-à-dire les amendes. Et il faut que je vous parle d'abord de ce mot-là qu'on voit là-haut, qui s'appelle cavalcade. Cavalcade, on dit aussi des chevauchées. Les chevauchées, ce sont des réunions qui sont mandatées par le comte de Savoie chaque fois qu'il veut faire la guerre, par exemple. Alors, on en trouve énormément dans les secteurs proches du Dauphiné, parce que on est dans une période où il y a de nombreuses luttes avec le Dauphiné. On en trouve dans le Bugey, on en trouve dans le Faucigny. Voilà, donc, alors, que fait le comte de Savoie? Il demande à chaque paroisse de sa principauté de fournir des volontaires pour aller à la guerre. Alors, je ne les appellerai pas des soldats, on les appelle des clients à l'époque. Les clients, ce sont des soldats. Mais le mot soldat, il n'est pas employé parce que vous savez que soldat, c'est. L'origine du mot soldat, ça vient du mot solidus, le sou, la monnaie. Ça a donné d'ailleurs le mot solde. Ce ne sont pas des gens rémunérés, c'est une sorte de service militaire obligatoire. Alors, je vous parle de ces cavalcades, simplement parce que, voilà, on trouve ici des amendes qui ont rapport aux cavalcades. Parce que ce n'est pas comme au XXe siècle ou au XXIe siècle, quand on ne répond pas à un appel militaire, on n'est pas déserteur. C'est tout simplement, on va payer une amende. Et, alors, il y a beaucoup de gens qui préfèrent payer une amende plutôt que d'aller à la guerre. Alors, vous avez ici toute une rubrique, je vous en ai mis que 5 ici, mais il y en a plein de pages. Vous avez toutes les communes de Maurienne. Ici, vous avez, ça c'est Beaune, ça c'est Saint-Michel, ça c'est Saint-Martin, Aurélette, ici Saint-Julien. Voilà, je vous traduis la ligne en vert ici. Il a reçu, le châtelain de Maurienne, de ceux de Saint-Julien, une amende de 10 sous, parce qu'ils furent provoqués à Saint-Jean pour la cavalcade et qu'ils n'y sont pas allés. Alors, que veut dire ce texte? Parce que je vous dis, la liste est très très longue. On s'aperçoit que la plupart des communes de Maurienne ne répondent pas, il ne faut pas que je dise communes, de paroisse de Maurienne, ne répondent pas à cet appel. Et la liste est très longue. Hein. Il y en a même comme ceux d'Auxois qui sont allés, mais qui ils ont écourté leur participation. Ça montre qu'il y a eu une volonté de répression. Pourquoi? Parce que c'est la seule cavalcade chevauchée qui est, pendant toute la période que j'ai étudiée sur 150 années, c'est la seule cavalcade qui est organisée à Saint-Jean-de-Maurienne. Les autres sont ailleurs, comme je vous l'ai dit. Donc c'est quand même pas un hasard si c'est en 1327. Vous voyez, c'est juste le moment de la révolte des arbres. Donc il s'agit d'une menace, en tout cas, de répression. Il y avait une force armée qui était mobilisée, mais plus ou moins bien, puisque on peut penser que les gens de Maurienne ont eu quelques réticences à aller combattre des gens de Maurienne, je suppose. Hein. En tout cas, j'ai jamais vu dans d'autres cavalcades autant de paroisses qui font défection. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette répression. Il y a eu sans doute une répression, mais une menace de répression. Et que cette répression, en fait, n'a jamais eu lieu, pour plusieurs raisons. Je pense qu'elle est davantage fiscale et économique que militaire. Et j'en veux pour preuve, ce que je trouve dans certains textes, on est ici dans une ferme, c'est-à-dire la ferme de la foire Saint-Michel. Saint-Michel, qui à cette époque est une ville importante, avec une foire sur l'itinéraire donc de l'Italie, qui est très importante. Et la ferme de Saint-Michel, la foire de Saint-Michel est donnée en ferme, hein, c'est-à-dire qu'elle est donnée à la famille Maréchal, à un certain Maréchal, qui lui paye une sorte d'abonnement au comte de Savoie chaque année et qui récupère les droits de foire. Et là, on parle de ce maréchal et on dit que cette année-là, nous sommes l'année suivante, en 1329, il comptabilise moins de recettes car les gens du domaine épiscopal n'ont pas osé se rendre à la dite foire ni pénétrer dans les terres du comte de Savoie à cause de la peur générée par l'importante condamnation qu'ont subi les gens de la Loire, comme il est rapporté dans le compte précédent. Et effectivement, dans le compte précédent, on a des mentions similaires. On s'aperçoit que, en fait, il y a une sorte, alors je ne sais comment appeler ça, mais peut-être une sorte d'assignation en résidence des habitants de l'épiscopat, leur interdisant d'aller sur les terres du comte de Savoie, c'est-à-dire dans la châtellenie maurienne. Autrement dit, les gens des Arts, par exemple, les gens de Valoire, n'avaient plus le droit d'aller commercer, par exemple, d'aller vendre leurs bêtes à la foire Saint-Michel pendant un certain temps. Donc il y a eu une répression plus économique et fiscale, à mon avis, que militaire. D'autant plus que quand il y a une répression, il y a forcément des arrestations. Et quand on arrête des gens, on les met en prison. Et que quand on les met en prison, il y a des frais. Les frais, c'est par exemple la nourriture. Hein, l'expression, c'est au pain sec et à l'eau. Donc, cum, pané, et à quoi ? Voilà, c'est, on le trouve très souvent dans les arrestations. On indemnise le chacun parce qu'il a eu des frais pour nourrir les prisonniers. Or, aucun prisonnier dans cette période. Aucun. On peut penser que les meneurs ont peut-être gagné le col de la Croix de Fer, ou s'il y en avait à Valoir, le col du Galibier, et ils sont partis dans le Dauphiné. Mais en tout cas, il n'y a eu aucune arrestation dans la châtaignée de Maurienne. Voilà, donc c'est un point très rapide sur l'aspect politique de la Maurienne. Je ne m'étends pas plus parce que je veux une présentation qui soit la plus courte possible. Et j'aborde la deuxième partie qui est l'aspect économique de la Maurienne, et là vous allez voir qu'on a aussi des surprises. Il faut que je vous parle du monde plein d'avant 1348. Vous savez que 1348, c'est la date où la peste arrive en Maurienne. Avant cette date, les historiens parlent du monde plein, c'est-à-dire un monde où tous les espaces sont utilisés. On va faucher dans des endroits reculés, qu'on imagine même pas aujourd'hui. La répartition des espaces est difficile entre, dans la partie basse, des terres cultivables, des céréales par exemple, juste en dessus, donc des prés de fauche. En dessus encore la forêt, et en dessus encore les alpages. Les alpages qui sont généralement des espaces communs qui appartiennent à une paroisse. Donc ce monde plein, c'est un monde qui... On pense par exemple à l'autosuffisance alimentaire, dans une époque où, quand on plante un grain de blé, dans le meilleur des cas, on en récolte 4, et très souvent 3, et parfois 2, sachant qu'il faut garder un grain de blé pour l'ensemencement de l'année suivante. Donc très difficile en Maurienne d'assurer l'autosuffisance alimentaire au niveau des céréales. Ce qui sauve les paysans à cette époque, c'est qu'ils se sont jetés à corps perdu dans l'élevage, et en vendant leurs bêtes, ils arrivent donc à acheter des céréales. Voilà la solution. Alors cette population de Maurienne, je vous ai dit qu'elle était nombreuse, il est très difficile de la chiffrer. Il n'y a pas bien sûr de recensement comme aujourd'hui. On parle à l'époque de feu. Un feu, c'est, les historiens s'accordent sur le chiffre de 4 à 5 personnes. Mais même ce chiffre, on peut le contester, parce que vous imaginez qu'un feu de 4 à 5 personnes en 1347, c'est-à-dire avant la peste, il peut y avoir des morts dans ce feu, et ce feu reste en tant que feu avec 3 personnes. Donc la comptabilité est très difficile, la marge d'erreur est importante. Alors, également, on a assez peu de documents. Les documents, ce sont les plus précis, ce sont les comptes de subsides, dont je vous ai parlé au tout début, où là, c'est assez nominatif. Ça ressemble un peu, pour ceux qui connaissent, à la gabelle du Seine. On repère les noms des gens, c'est assez précis, mais malheureusement, en Maurienne, il y a très peu de comptes de subsides qui sont conservés. Il y en a un juste au mi-temps du siècle, et je trouve quand même dans les comptes de Châtellenie des indices qui me donnent quelque chose. Alors, on va pas s'étendre sur ce graphique, mais vous voyez ici, 240 feux, ici, c'est la paroisse de Saint-Amand-des-Villars. Il y a 240 feux taxables, je dis bien taxables, du comte de Savoie à Saint-Amand-des-Villars. Ça représente déjà environ 1000 personnes. Pour ajouter à ça les pauvres, qui ne sont pas comptés là-dedans, puisqu'ils ne payent pas d'impôts, les veuves, les orphelins, les clercs, les nobles, et puis les hommes du chapitre, les hommes du vicomte de la chambre, on peut imaginer qu'il y a 1500 personnes minimum à Saint-Amand-des-Villars. C'est une chose qu'on constate, alors sur de multiples exemples, c'est que les villages de moyenne altitude sont très très peuplés à cette époque. Il faudra attendre peut-être le 19e siècle pour retrouver des chiffres comparables. On a des villages qui aujourd'hui ont complètement disparu, pour ceux qui connaissent la Maurienne. Donc au-dessus du Châtel, vous avez Champsuite, qui est un réel village avec des gens qui sont là, qui cultivent la terre. Vous avez Tourmentier, à côté de Saint-Julien, pareil, c'est un village important. Voilà, je passe rapidement là-dessus. Alors, je vous passe également en détail les calculs, qui est un peu compliqué, donc avec une marge d'erreur importante. J'arrive au chiffre suivant, entre 17 000 et 24 000 habitants en 1346. J'ai mis le chiffre de 2018 pour vous donner une idée. Vous voyez que ce chiffre de 1346 est très important pour l'époque, parce que la productivité n'est pas la même qu'au 21e siècle. Alors, je vous ai parlé des espaces, hein, donc les espaces, je vous en ai dit quelques mots. Je vais peut-être rajouter un mot sur les forêts, qui sont un espace essentiel, pour trois raisons. D'abord le bois de chauffage, hein, qui est indispensable, le bois de construction. Et puis, on l'oublie quelquefois, les forêts sont une protection pour les paysans contre les avalanches. Donc des forêts qui sont vraiment gérées le mieux possible. Certaines forêts sont mises en défense pour éviter qu'on coupe du bois, il y a des interdictions, parce qu'il faut préserver le bois. Alors vous voyez, c'est une sorte de répartition entre tous ces espaces, entre les terres cultivables, la forêt, les terres que l'on peut faucher, et puis les alpages. Alors j'ai tenté de reconstituer sur des vues trois dimensions les espaces de Maurienne, en particulier les alpages, en me disant que, vu que la géomorphologie de la Maurienne n'a pas changé, a priori, depuis le XIVe siècle, les alpages devraient se trouver à peu près au même endroit. Quand je trouve un alpage, par exemple, de Saint-Julien, j'imagine que l'alpage n'a pas vraiment changé. Ce qui a pu changer depuis le XIVe siècle, c'est l'étendue de l'alpage. Comme je vous l'ai dit, la forêt pouvait être un peu plus étendue ou un peu moins étendue, ça je ne sais pas. Mais la localisation de l'alpage est donc, à mon avis, au même endroit. Alors les cartes 3D, si vous voulez arriver. Voilà, alors vous avez ici la partie basse de la vallée, donc le secteur de la Chambre Saint-Jean-de-Maurienne. Vous avez donc tous les noms que vous voyez ici, ce sont des alpages qui sont repérés au XIVe siècle. Et j'ai repris ici une étude de l'INRAE de Grenoble, récente, de 2012-2014, qui représente les alpages actuels. Donc je les ai localisés sur une carte 3 dimensions, et j'ai appliqué donc l'alpage du XIVe siècle à l'alpage actuel. Donc c'est un peu anachronique, mais voilà, ça vous donne une idée de ces alpages. Si l'on prend la partie immédiatement supérieure de la vallée, la partie autour de Saint-Michel, vous avez un secteur ici qui est très intéressant, c'est dans la partie haute ici, vous voyez, le col des Encombres avec la montagne du Loup. Alors c'est un secteur qui a été étudié par Fabrice Mouton, encore lui, qui a fait un dossier très détaillé sur cette partie, où il y a eu de nombreux conflits au cours du Moyen-Âge, qui ont duré plusieurs siècles. Je vais vous agrandir la carte là, voilà, peut-être l'agrandir encore un peu, voilà. Vous avez ici la montagne des Encombres, avec la pointe de la Masse, et puis donc les alpages qui appartiennent à la fois à Saint-Martin-la-Porte, à Beaune, à Saint-Michel, au Tille. Et puis de l'autre côté de la pointe de la Masse, vous avez la montagne du Loup, avec ici le lac du Loup, qui sont des alpages qui appartiennent au Tarin, c'est-à-dire la vallée des Belleville. Donc tous ceux qui connaissent un peu la montagne savent que les ovins ou les bovins qui pâturent dans cette zone-là vont avoir une fâcheuse tendance à aller boire de l'eau ici au lac du Loup. Donc des conflits incessants et qui sont parfois très violents. Il y a eu des combats même entre paysans. Ce qui se fait couramment, c'est de capturer des bêtes de l'adversaire, de les descendre au village et de se faire un repas, un banquet pour fêter l'événement. Voilà. Donc je vous reporte au travail de Fabrice Mouton, qui a expliqué donc ce secteur-là. Voilà. Je reviens sur la carte précédente. Je vais peut-être vous montrer pendant qu'on est sur cette carte. Alors, d'abord, la vallée supérieure, c'est pareil. Ici, vous avez la partie donc, de la Haute-Maurienne avec la Bérole ici, la Bérole baissant. On retrouve des toponymes ici. Je vais agrandir pour que vous voyez un peu mieux. Et on retrouve des toponymes, vous voyez, par exemple ici la Rocheur, l'Aisne Rochour en patois local. Ce sont des alpages de Termignon. On retrouve tous ces alpages au XIVe siècle. Voilà, je reviens sur la partie basse de la vallée. Voilà, et je vais profiter pour vous montrer, bon, ça c'est, on l'a déjà vu, hein, ce sont les châteaux et maisons fortes. Disons que la vue 3D plus intéressante, c'est qu'on peut voir par exemple ici, vous voyez, le secteur de la Chambre, avec la tour du comte de Savoie ici, qui se trouve à la Chambre. Aujourd'hui, hein, c'est entièrement refait, mais elle se trouvait à cet endroit. Je ne sais pas si certains connaissent cette maison. Voilà, ici, il y avait deux tours, en fait. C'était la maison du comte de Savoie. Et puis, vous avez juste à côté le château de Notre-Dame-du-Clouet, donc il ne reste pas grand-chose. Voilà, du vicomte de la Chambre. On peut penser que le comte de Savoie avait établi sa tour postérieurement, bien sûr, à celle du vicomte de la Chambre, peut-être pour surveiller son vassal, et juste à côté, donc il peut surveiller ce qui se passe. Voilà. Je reviens. Alors, Autre chose à vous montrer sur ces cartes 3D, c'est assez intéressant, c'est les unités de production. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu compliqué, mais vous avez ici en rouge, par exemple, les moulins. Alors, je vous montre ceux de la chambre. Ce sont des moulins qui sont redevables des taxes chaque année au comte de Savoie. Vous avez des choses intéressantes comme des lausières, ces petits icônes noires avec le N ici. Ce sont des... Alors, en latin, c'est une lausière, mais en bon marinais, comme vous le savez, dans la basse vallée, il n'y a pas de l'eau, ce sont des ardoises, et l'eau, c'est plutôt la haute Maurienne. Donc, il faudrait plutôt traduire ça par ardoisière pour la partie basse. Donc, on retrouve celle de Saint-Anne ici. J'ignorais, moi, qu'il y avait des ardoises à Saint-Anne. Et puis, également, ça, c'est pas une surprise pour nous, ici, à Saint-Julien. Voilà, il y a des lausières ici à Saint-Julien. Alors, c'est... Sans entrer trop dans le détail, je vais vous montrer simplement une chose qui est intéressante, ce sont les points noirs que vous voyez sur la carte. On ne voit pas tellement bien, mais vous voyez, il y a des points noirs ici, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Ce sont ce qu'on appelle des manses. Le manse, c'est en quelque sorte une unité de production où des familles se regroupent, quelquefois plusieurs familles. Et cette unité de production produit des céréales, par exemple, et donc... paye des redevances au compte de Savoie. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu retrouver pas mal de, dans la toponymie actuelle, pas mal de manses qui existaient, qui aujourd'hui sont des lieux-dits. Alors je ne connais pas très bien les secteurs, mais ceux qui sont par exemple sur Saint-Rémy, qui connaissent bien Saint-Rémy, vous avez ici la Combe, ici. Vous voyez, vous avez encore dans le lieu-dit un secteur qui s'appelle la Combe. Donc là, il y a un manse. Vous avez par exemple ici, près de Saint-François-Bonchamp, vous avez le mât de la Colombe et le mât du Replin. Aujourd'hui, on le trouve toujours dans la toponymie, ici. Vous voyez, la Colombe et le Replin. Donc voilà, alors je vous montre que la partie inférieure. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de voir ici cette zone intermédiaire. On est donc entre Modane et ici Saint-Jean-Maurienne. Ça, voilà. Et vous avez donc ici ce trait orange qui schématise les deux parties de la Maurienne, du comte de Savoie, ce qu'on appelle la Verne inférieure ici, et puis la Verne supérieure ici, à partir du Fresnay. Vous avez ici l'arc qui fait une sorte de méandre. Il y a aujourd'hui un barrage ici. On peut penser qu'il y avait une chute, une déclivité importante à ce moment-là, une chute d'eau, ce qui pourrait justifier le terme de pas de la Verne. Donc là, c'est la limite entre les deux parties de la Maurienne, la Verne inférieure, la Verne supérieure. On retrouve d'ailleurs les limites même dans les textes ecclésiastiques et de façon assez précise. Voilà, j'ai pu vraiment ce qui est là. J'en profite pour vous montrer également les métralies pendant qu'on est là-dessus. Voilà, les métralies de Maurienne. Alors, qu'est-ce qu'une métralie? Le métral, c'est un peu l'adjoint du châtelain. Donc, le châtelain, lui, se trouve pour le comte de Savoie à la chambre. Il était antérieurement à Hermillon. Et tous les points verts que vous voyez, ce sont des métralies, c'est-à-dire des adjoints du châtelain qui perçoit l'impôt, qui fait le travail d'adjoint du châtelain de Maurienne. Voilà, j'en ai terminé, je vais revenir à ma présentation. Attends de la retrouver, voilà, elle doit être là. Hop. Alors je me suis attaché à essayer de voir quelle était la productivité de la Maurienne, de voir quelle était sa rentabilité. Alors pour le faire, il faut donc, c'est très difficile parce qu'il faut comptabiliser les recettes, mais les recettes à l'époque sont au moins en 4 monnaies dans chaque compte, 4 monnaies différentes, et sur l'ensemble de la période, il y a environ 15 monnaies différentes, avec des taux de change qui changent en permanence. Donc la première étape, c'était de ramener toutes ces monnaies à une monnaie unique et à peu près stable. Bon, j'ai choisi le florin de Florence, qui est une monnaie d'or qui reste à peu près stable, donc une conversion de monnaie. Également, une difficulté, c'est que les comptes, aujourd'hui, les exercices fiscaux, en général, sont d'une année. À l'époque, les comptes de châtaignier, ça peut être de 9 mois, ça peut être un an, ça peut être 2 ans, voire 3 ans. Donc, il faut tenir compte, pondérer ces recettes par la durée. Donc, ça fait des calculs assez compliqués. Et lorsque j'ai analysé ça sur les 150 années de la Maurienne, j'ai essayé de comparer ça avec d'autres châtaigniers, ailleurs dans le comté de Savoie. Et je ne m'attendais pas à trouver ce résultat, c'est que la châtaignerie de Maurienne est une châtaignerie prospère et rentable. Alors, je n'ai pas fait toutes les châtaigneries, hein, mais déjà par sondage de quelques châtaigneries importantes, vous avez ici tout ce qui est en gris, Ce sont les recettes de la Maurienne. Depuis 1279 jusqu'à 1417. Et tout ce que vous voyez en couleur ici, ce sont d'autres châtaigneries que j'ai procédé par sondage. Des châtaigneries importantes comme Évian, comme Montmélian, comme Bourg-en-Bresse, comme Pont-de-Vaux. Vous voyez, aucune ne rapporte au comté de Savoie, aucune ne rapporte autant que la Maurienne. La Maurienne est la vallée la plus riche de cette époque. Voilà, c'était une première surprise pour moi. Alors, il y a quand même des explications. Les explications, c'est la première qui est assez évidente, c'est que la Maurienne est très étendue en superficie par rapport à d'autres châtaigneries. Donc, une vallée qui possède également beaucoup d'habitants, je vous l'ai dit, ça veut dire beaucoup d'amendes, beaucoup de droits, etc. Donc, déjà, la démographie explique en partie ces recettes importantes. Une deuxième raison, c'est que la Maurienne est une vallée, vous le savez, une vallée de passage. Les ducs de Savoie, plus tard, seront qualifiés de portiers des Alpes, c'est-à-dire qu'ils contrôlent le passage vers l'Italie, pas seulement par la Maurienne, mais entre autres par la Maurienne. Et donc, il y a des péages. Il y a des péages, il y en a essentiellement quatre en Maurienne. Il y a le col du Mont-Cenis, en réalité, c'est à Lons-le-Bourg. Il y a un péage très temporaire au pont d'Hermion. Alors ce péage ne fonctionne que lorsque, pour la foire de Saint-Jean et pour le retour de foire. C'est-à-dire que les gens qui viennent à la foire de Saint-Jean, ils rentrent dans l'épiscopat. Donc le comte de Savoie fait payer au pont d'Hermion un péage pour avoir le droit d'aller dans l'épiscopat. Aussi bien les bêtes d'ailleurs que les hommes. Donc ce péage est peu important en recette. Et les deux autres péages sont l'un à Pont-à-Mafraye, c'est plutôt les ovins, et l'autre est à La Chambre. C'est plutôt ce qu'ils appellent les grosses bêtes, c'est-à-dire les chevaux et les vaches. On prélève d'ailleurs à la Chambre une taxe supplémentaire de 50% de l'autre pour la réfection de la route, parce que les bovins, ils abîment la route. Quoi. Donc ces péages rapportent beaucoup d'argent à la Maurienne, en tout cas au comte de Savoie, mais de très loin, c'est quand même le col du Mont-Cenis, le passage du Mont-Cenis qui est le plus important, et de très loin. Vous avez ici l'ensemble des péages sur la période. Hein, voilà. Ce qui est important de voir, c'est cette courbe que je rajoute là, ici, en orange. C'est les recettes du col du Mont-Cenis, qui représentent, vous voyez, 90% du total. Il n'y a qu'une période ici de 25 ans où le col du Mont-Cenis ne rapporte rien, en apparence, parce qu'en fait, on a donné ce péage en ferme au frère Berlion de Termillon, qui perçoivent à leur compte la recette du péage et qui verse au compte de Savoie, donc un abonnement annuel. Et avec dans la clause, c'est stipulé que le comte de Savoie peut reprendre au bout de 25 ans le droit, ce qu'il va d'ailleurs faire, vous voyez ici, au bout de 25 ans, en 1375, il reprend le droit du péage et ça revient de nouveau directement dans l'escarcelle du comté de Savoie. Donc l'importance du passage du Mont-Cenis, ce sont des recettes très importantes. Je vous donne qu'un seul chiffre. En 1323, il y a presque 14 000 ovins qui passent au col du Mont-Cenis et plus de 9 000 grosses bêtes, bovins et chevaux. Et c'est pas anodin, quoi. Alors, c'est très fluctuant, bien sûr, quand il y a des guerres, il y en a un peu moins, parce que les marchands hésitent à faire le voyage. Et puis, il y a également le problème de la peste. Mais vous voyez que la peste ici joue un petit peu ici, mais pas trop. Vous voyez, c'est 1348 ici, la peste, il n'y a pas trop de pertes, notamment ce qu'on pouvait penser. On en vient maintenant à ce chapitre de la peste de 1348. Je vous ai parlé tout à l'heure du monde plein, donc ce monde un petit peu saturé de avant 1348. Et la grande peste va avoir des effets et des conséquences à la fois positives et négatives. Alors c'est un sujet qui a été traité dans une thèse du XXe siècle par un historien danois qui s'appelle Michael Kelting, qui a bien étudié ce chapitre de la peste. Alors, je n'ai pas voulu reprendre son travail, mais j'ai simplement complété certaines choses que j'ai trouvées dans les documents de l'époque. Et en particulier, je me suis servi de l'exemple des notaires. Alors, ça peut vous sembler bizarre, mais la profession de notaire est très bien répertoriée à cette époque, simplement parce que les notaires payent annuellement un droit, chaque année, c'est très précis, et on connaît, région par région, dans la Maurienne, le nombre de notaires. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez me dire combien il y a de notaires en Maurienne, mais il y en a 4, je ne sais pas, peut-être 5 au maximum. À l'époque, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus, tout simplement parce que cette période du XIVe siècle, XIIIe, XIVe, c'est l'époque du retour en force du droit romain. Auparavant, pour avoir un titre de propriété d'une terre, on utilisait le droit coutumier, c'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir trois témoins, disons que mon arrière-grand-père avait cette terre, donc elle est à moi. À partir du XIIIe, XIVe, il faut des actes écrits. D'où cette profession de notaire qui va se développer considérablement, d'abord en Italie, puis ensuite en Savoie, au début du XIVe. Alors vous voyez les chiffres, ils sont assez importants. Au début du XIVe siècle, on a déjà 20 notaires en Savoie, en Maurienne, uniquement en Maurienne. Et tout au long du demi-siècle, jusqu'en 1348, on arrive à 62 notaires en Maurienne. Alors bien sûr, il ne faut pas les considérer comme les notaires actuels, ils n'ont pas forcément une étude, ils ont quelquefois simplement, ils vont sur le marché, sur les foires, ils vont même chez l'habitant, et donc ils mettent en latin, ils savent écrire le latin, ils écrivent en latin, c'est que les actes de propriété. Ouais. Alors vous voyez que donc ici il y a une chute, hein, sans surprise, du nombre de notaires, on passe de 62-60, tout d'un coup à 39, exactement au moment de la peste. Et on a la chance d'avoir un registre dans les comptes de Châtenay qui nous indique les noms des décédés et les noms des survivants de la peste. Alors, sans rentrer dans le détail encore une fois, je retiens qu'un chiffre, vous voyez ici, c'est que la létalité de la peste sur la profession de notaire est de 35%. Ce chiffre est parfaitement en accord avec ce que les historiens estiment de la peste de 1348, qu'on appelle la grande peste, où environ un tiers de la population est morte. J'ai un deuxième exemple qui vient appuyer ce chiffre, c'est à la Chambre. Alors à la Chambre, on paye un droit de botaggio. Alors c'est un, je pense qu'on peut le traduire par embouteillage, c'est-à-dire que quand on met le vin, qu'on le met en bouteille ou en tonneau, on paye un droit au comte de Savoie. C'est le seul endroit où ça se passe. Voilà, à la Chambre, c'est un droit qui va durer pendant tout le Moyen-Âge. Et donc en traduisant, voilà, on trouve ce texte. Donc on prélève un denier par feu, et il est précisé, donc au cours de cette année 1349, qu'il y a moins de recettes que l'année précédente à cause des 29 feux disparus à cause de la mortalité. Alors, si on prend l'année précédente, on trouve facilement le nombre de feux, qui était de 87. En enlevant 29, on obtient encore une fois environ un tiers de population à la Chambre qui est décédée. Donc toujours ce chiffre d'un tiers. Une autre conséquence de la peste de 1348, ben c'est sur l'économie, c'est par exemple sur le coût de la vie. Vous imaginez que du jour au lendemain, il y a moins de population, donc il y a une demande qui diminue, en particulier sur les céréales, et en quelque sorte une surproduction, parce que les terres sont toujours là, elles produisent. Si l'on regarde le prix des céréales sur cette période, vous voyez, alors il y a quatre céréales. Hein. Celle qui est le plus en haut ici, c'est le blé. Le blé qui est d'une production très faible à cette époque. On peut penser qu'elle est réservée uniquement aux notables, aux élites, quelquefois peut-être aux grandes occasions, mais la céréale la plus importante, consommée par la majorité de la population, c'est le seigle. Vous voyez la courbe qui est juste en dessous ici. Et puis il y a également deux autres céréales qui sont comptabilisées, c'est l'orge et l'avoine dans une moindre mesure pour les chevaux. On remarque d'ailleurs que sans doute une seule céréale avait un prix fixé, et les autres étaient indexés, vous voyez, les courbes sont quasiment parallèles tout le temps. Et bien, que se passe-t-il au moment de la peste? On le voit ici, je mets la barre rouge ici, vous voyez, le prix des céréales chute, voilà, à cause de la surproduction. Et on retrouvera seulement le cours des années 1317, vous voyez, on le retrouvera qu'au début du 15e siècle. Voilà, donc un certain nombre d'indications qui montrent les conséquences de la peste. Donc à la fois, bien sûr, une catastrophe humanitaire, évidemment, mais également des conséquences positives sur l'économie, puisque ça va résoudre le problème du monde plein en libérant des terres. On peut penser qu'il y a des foyers où les enfants, par exemple, restent avec leurs parents parce qu'il n'y a pas de terre disponible, qui vont pouvoir aller s'installer, créer de nouvelles surfaces, de nouveaux fonds. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion, j'ai essayé d'être le plus rapide possible. Je vous rappelle les points que j'ai abordés. Donc, un espace politique complexe, hein, avec ce dominium de plus en plus important du comte de Savoie, qui peu à peu grignote des terres au détriment de l'évêque et également du vicomte de la Chambre. L'espace sur le plan économique de la Maurienne, vous l'avez compris, est très actif et très rentable. On peut en comprendre pourquoi les comtes de Savoie sont si attachés à cette vallée de la Maurienne depuis longtemps. Et c'est également, je n'ai pas abordé ce sujet, mais c'est également une partie de la Via Francigena, c'est-à-dire cette voie qui traverse la France et qui va jusqu'à Rome. Il n'y a pas que la Maurienne, il y a d'autres passages, mais c'est une partie, une des branches de la Via Francigena. Donc, avec de nombreux passages, j'ai omis de parler, par exemple, des pèlerins qui se rendent à Saint-Jean-de-Maurienne pour vénérer les reliques de Saint-Jean-Baptiste. C'est l'époque aussi, 14e siècle, où le culte de Sainte-Thècle prend de l'ampleur. À cette époque, la grotte de Sainte-Thècle existait déjà dans les textes. Et puis, donc, on en a parlé, tous les voyageurs qui traversent la frontière dans les deux sens, les marchands qui se rendent aux grandes foires de France, et qui peuvent passer par la Maurienne. Ensuite, les communautés paysannes, je les ai assez peu abordées, toujours renvoie aux travaux de Fabrice Mouton, qui ont pour elles le pouvoir du nombre, et qui sont un réel contre-pouvoir dans cette époque, puisqu'elles ont la possibilité de contester certaines décisions, de demander des franchises, par exemple. Ensuite, cet évêché qui conserve un prestige fort, j'en ai parlé, avec Saint-Jean-Baptiste, bien sûr, et Sainte-Thècle. Et puis, donc, nous l'avons vu en dernière partie, l'incidence de la grande peste sur le Mont-Plein. J'en ai terminé, merci de votre attention.